quand même la question du relativisme, là, est au cœur. Hein. En même temps, soit on a une vision finalement assez positive de ces évolutions, c'est-à-dire qu'au fond, d'un certain point de vue, le savoir est du côté du patient. Hein. Ça nous rappelle ça aussi, c'est-à-dire quand les gens expriment leur expérience sensible, vous dites quelque chose d'intéressant. Hein. Dans votre recherche, vous dites... Que peut-on apprendre sur l'autisme en écoutant les autistes? Et ils disent des choses intéressantes. En même temps, ces mouvements de médicalisation et de démédicalisation, c'est aussi la question des curables, incurables, moi, qui me traverse, parce que j'ai vu, bien que vous ne l'ayez pas cité dans une de vos diapositives, que certains autistes militaient pour qu'on ne les supprime pas au moment du diagnostic prénatal. Donc, c'est pas si simple. Hein, c'est un peu complexe comme questionnement.
Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors, le problème des tests génétiques, alors là, c'est toute une histoire. Il n'existe bien sûr pas de test génétique de l'autisme. Mais par contre, il y a une telle publicité autour de la génétique, notamment lorsque les résultats sont sortis sur les neuroligines, une entreprise américaine a tout de suite vu l'intérêt. Donc, ils ont fait un test génétique qu'ils ont mis en vente sur Internet et des milliers de parents ont acheté ce test, je crois que c'était 700 euros à l'époque, pour rien, puisque le test il est négatif pour presque tous les cas, puisque c'est très rare dans le cas de l'autisme. Donc, à l'heure actuelle, il n'existe pas de test génétique. Mais c'est là le problème. C'est qu'il y a tellement de publicité autour de la génétique qu'on croit, et que tout le monde croit que c'est possible de le faire. Et si tout le monde le croit, effectivement, vous allez trouver des entreprises qui vont vous vendre des tests en vous faisant croire que... vous allez pouvoir détecter l'autisme. En plus, je ne sais pas si vous avez bien vu la diapo sur les neuroligines. Pour les deux familles, c'était la même chose. Il y avait un enfant autiste et un enfant Asperger. Ça veut dire que quand vous mettez en évidence une mutation, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Si ça va donner une personne sans aucun problème, une personne hyper intelligente, une personne lourdement atteinte avec retard mental, personne ne le sait.
Questions à la tribune ou dans la salle.
Oui, je suis surpris que vous employiez le mot de relativisme. Ce que dit Brigitte ne me paraît pas du tout relativiste, puisque justement, ce qu'elle met en contexte, c'est que selon que vous êtes au Québec, aux États-Unis ou en France, c'est-à-dire en fonction des institutions qui sont disponibles, de la représentation de la famille que vous avez, et même dans certains travaux qu'elle a faits, des représentations de ce que c'est qu'un parcours de vie avec ses crises et ses transformations, qui sont par exemple extrêmement marquées aux États-Unis par un schéma qui remonte au moins au puritanisme, hein, n'est-ce pas ? C'est le « je vis dans le péché, je traverse une grande crise et en rencontrant des autres, je me transforme ». Par exemple, ça c'est des choses qui sont assez connues, très différentes dans nos pays par exemple, mais vous avez au contraire des indications précises de ce qui détermine des figures sociales particulières de l'autisme et dans des cercles extrêmement subtils en fonction des formations médicales des gens qui vous soignent, des traditions thérapeutiques, et que rien là-dedans n'est relativiste. Au contraire, mais non, c'est comparatif. C'est tout à fait différent. C'est de montrer que le comparatisme ne fait pas apparaître que tout se vaut et que rien et que l'autisme n'existe pas. Ça montre au contraire qu'il n'existe pas de maladie qui soit simplement une affection biologique en dehors, comme dans sa première photographie, de la prise en charge collective et sociale qui exerce un pouvoir déterminant majeur sur ce dont il s'agit. Hein. Et ça, je crois que vous n'imaginez pas, parce qu'il y a personne ne hurle dans la salle, mais vous n'imaginez pas l'extrême difficulté qu'il y a à faire entendre ça. Que présenter un déterminisme de cet ordre, présenter une explication rationnelle de cet ordre, ça n'est en aucune manière ni aller contre la biologie, quelque chose qui aurait une qualité démonstrative inférieure à celle de la biologie. Mais c'est extrêmement difficile d'indiquer que là, il y a un lieu de recherche pour la psychiatrie qui est magnifique, quoi, qui est super, parce que ça peut s'étendre à bien des choses. Hein.
Je voulais juste préciser que le problème, enfin, j'ai donné l'exemple de l'autisme, mais on peut faire exactement le même travail avec l'hyperactivité ou le syndrome bipolaire. D'ailleurs, il y a un chercheur, François Gonon, qui travaille à Bordeaux, qui travaille sur l'hyperactivité et qui démontre que tout ce qui est diffusé par rapport à la théorie dopaminergique de l'hyperactivité n'est absolument pas fondée. D'ailleurs, il a publié dans Teens son travail. Donc, en reprenant tous les travaux, il montre que on n'arrête pas de dire ça, que le problème de l'hyperactivité, c'est un problème lié à la dopamine, mais il n'y a aucune preuve. Bon, en reprenant tous les travaux, ben, il ne voit pas de résultats significatifs.
Bonjour, je suis là. Vous ne me voyez pas, je suis tout en bas. Sandrine dit, je suis tout en bas, vous devez me voir. En fait, j'ai une question qui est un petit peu générale. Donc, là, vous parlez de l'autisme, et je pense que ça peut s'adresser à d'autres pathologies. Dans l'historique que vous avez présenté sur le fait qu'effectivement, au niveau de l'évolution de la dénomination, en fait, de la nosographie, et avec dans le DSM-5 l'apparition en fait d'entités très vastes qui vont regrouper beaucoup de choses, j'aimerais bien avoir un petit peu votre point de vue sur l'implication, par exemple, au niveau plutôt social des patients à qui il y a 20 ans ils auraient été étiquetés autistes ou actuellement Asperger, et puis dans 5 ans on va leur dire vous avez un trouble envahissant du développement ou un spectre autistique. Enfin, quelle l'implication en fait à ce niveau-là?
Alors là encore, ça dépend des pays. Donc, si on analyse les récits aux États-Unis, en Australie, lorsque les adultes se rendent compte que leur mode de fonctionnement correspond à ce qu'on décrit comme étant de l'autisme, mais ils comprennent mieux leur mode de fonctionnement et ils contactent d'autres personnes. Et du coup, ils ont une socialisation qui fait qu'ils se sentent beaucoup mieux. Donc, à l'âge adulte, vers l'âge de 40 ans ou à peu près, ou même il y en a qui ont eu leur diagnostic à l'âge de 60 ans, ça les aide énormément. Mais ce n'est pas du tout la même chose pour les enfants et les adolescents. Des adolescents qui apprennent qu'ils ont un syndrome d'Asperger et on leur dit qu'ils sont handicapés, alors là, je vous assure qu'il peut même y avoir des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui restent enfermés chez eux. Donc, là encore, il y a un diktat aujourd'hui par rapport au diagnostic précoce. Partout, vous verrez, il faut diagnostiquer de façon très précoce pour prendre en charge. Prendre en charge, personne ne sait exactement quoi faire, hein, mais il faut diagnostiquer de façon précoce. Mais le diagnostic précoce, quelquefois, ça a un retentissement très important. Ça peut être important pour les parents pour avoir des aides, mais pour l'enfant, ça le stigmatise très très tôt. Et surtout pour les personnes Asperger. C'est-à-dire, moi, dans le milieu de la science, j'ai connu des personnes Asperger qui ne savent pas qu'elles sont Asperger. Moi, je ne savais pas qu'elles étaient Asperger non plus. C'est après coup que j'ai pu me rendre compte. Elles n'ont jamais eu de diagnostic. Et pourtant, elles ont pu aller à l'école normale, au polytechnique. Elles ont pu avoir un métier, être chercheur. Aujourd'hui, si à l'âge de 13 ans ou 14 ans, vous avez votre diagnostic d'Asperger, ça m'étonnerait que vous arriviez à rentrer à Normal Sup. Donc il y a vraiment, et là ça dépend vraiment des pays, parce qu'aux États-Unis avoir un diagnostic d'Asperger, ça permet d'avoir des aides à l'université. Donc c'est toujours en contexte qu'il faut analyser le problème.
Bonjour, tout d'abord merci pour vos présentations. Je suis là. C'est une question plus pour Monsieur Postel. Quelle forme devrait prendre la recherche que vous espérez de vos vœux?
Est-ce que vous pouvez répéter, parce qu'en fait, non seulement je ne vous vois pas, mais je vous entends à peine, en fait.
Je voulais juste vous demander quelle forme la recherche que vous espérez devrait... Quelle forme devrait avoir la recherche que vous espérez?
Elle ressemblerait beaucoup à ce que fait Brigitte, hein, c'est-à-dire vraiment des enquêtes comparatives qui permettent de mettre en évidence que les représentations et les logiques institutionnelles à l'intérieur desquelles le mal-être s'exprime produisent des destins complètement hétérogènes, et que ça doit être mis en balance avec les découvertes de la biologie. Ce que j'ajouterais aussi, parce que je suis quand même de formation philosophique, c'est que dans d'autres travaux, Brigitte a fait cela de façon aussi très précise, c'est qu'il y a toute une dimension de critique épistémologique de la manière dont les preuves sont administrées dans ces domaines, qui n'est pas exactement une critique de type sociologique, mais qui est parfois une critique dans la construction des preuves, dans le design des expériences, où dont une interprétation facile serait de dire les gens sont soit hallucinés par leur envie de prouver quelque chose, soit objectivement malhonnêtes, mais c'est plus compliqué que ça. c'est qu'il y a une pression à la naturalisation d'un certain nombre de phénomènes qui correspond à des exigences très très fortes. Quand on a parlé de la culpabilité, par exemple, tout à l'heure, moi il y a une chose qui me sidère, c'est pourquoi les gens ne veulent pas être coupables. Il suffit d'expliquer à des parents d'enfants autistes que heureusement qu'ils se sentent coupables. Parce que s'ils ne se sentaient pas coupables, mais ils ne s'occuperaient pas de leur gamin. C'est pour ça qu'ils se réveillent, c'est pour ça qu'ils vont voir des gens et qu'ils n'ont pas du tout. C'est une chose qui m'est souvent arrivée de devoir expliquer à des gens qui accusent les psychanalystes d'être des gens qui culpabilisent. Mais vous avez de la chance d'être coupable. La pire chose qui pourrait vous arriver, c'est que vous ne soyez pas travaillé par le sentiment que vous avez d'être responsable de votre enfant.